Pauline Pucciano, La cité d'Albâtre, tome 2, La cité hantée, partie 1, Réveil, chapitre 1, La nuit fertile. Le théâtre aquatique avait été conçu pour que tous les spectateurs, où qu'ils fussent, profitent pleinement du spectacle. Certains d'entre eux se trouvaient à ciel ouvert, au même niveau que la scène circulaire entourée d'un bassin miroitant qui paraissait infusé de flammes par les reflets des torches disposées à ras du sol. D'autres se tenaient en hauteur, sur des sortes d'escaliers monumentaux qui ne menaient à rien et sur les marches desquelles on se tenait assis. D'autres encore admiraient la scène du dessus par les terrasses du théâtre. L'une d'elles, à 2 mètres à peine de hauteur, offrait par son arc de cercle l'une des vues les plus panoramiques. Elle était réservée aux spectateurs mobiles qui souhaitaient changer d'angle de vue et se promener à loisir autour de la scène. Le bâtiment lui-même était creux, comme un coquillage ourlé protégeant son centre. Les escaliers et les terrasses ne desservaient rien d'autre que la scène, joyau central de pierre, de feu et d'eau. La magie du théâtre commençait en effet bien avant l'arrivée des acteurs et des musiciens. Les représentations, toujours choisies en période de lune pleine, commençaient à son lever. Le clair de lune, les vasques et les torches innombrables illuminaient les colonnes ouvragées, certaines debout, d'autres couchées, qui constituaient l'unique et éternel décor. Le mystère de la nuit les transformait tantôt en arbres, tantôt en portes, tantôt en trônes. Par un ingénieux système de souterrains, les acteurs apparaissaient et disparaissaient par des portes dérobées dans l'albâtre des colonnes, et aucun d'eux ne franchissait jamais le bassin d'eau qui entourait la scène. Cette nuit, on jouait La nuit fertile, un poème épique qui connaissait un vif succès depuis plusieurs semaines. Les natifs de Villebasse s'y pressaient particulièrement, certains depuis plusieurs soirs, grisés par les grands sentiments autant que par la musique des mots, le clair de lune et la beauté profonde et si impressionnante des nuits parfumées d'albâtre. L'intrigue de la pièce était fort simple et se contentait de romancer à l'extrême la récente histoire de la cité. L'héroïne, interprétée ce soir par Daphnae, s'appelait Alusia. Elle avait mené la révolution avec son amant, et alors que le peuple, figuré par des silhouettes dansantes derrière les colonnes, se réjouissait et la choisissait pour régner, elle se tenait seule, agenouillée, au bord de l'eau où son amant venait de se noyer, et déclamait son deuil au son mélancolique d'un luth invisible. Alors que 1000 voix m'acclament et m'emportent, et répètent mon nom par joyeuse cohorte, je m'enfuis un instant silencieuse, et je prie, au bord de cette eau noire où je perdis ta vie. L'actrice était, assurément, beaucoup plus belle que ne l'était à Eleanor, plus grande, plus ondulante, le regard plus brillant et la voix plus tremblante, mais l'adhésion qu'elle recevait chaque soir du public ne lui appartenait pas entièrement. Je me souviens des jours heureux qui ne sont plus, des espoirs lumineux, des radieux débuts, des éclats colorés de nos vives querelles, mais entends, Alusia, le peuple qui m'appelle. C'était le final. L'héroïne se relevait avec difficulté, dans un crescendo musical où le luth était progressivement accompagné des autres instruments, et, après avoir plongé sa main dans l'eau en guise d'adieu, elle se retournait résolument vers le peuple qui l'acclamait. Les acclamations jouées se confondaient alors avec les acclamations réelles des spectateurs, et Daphnae, royale, s'inclinait jusqu'à terre et savourait jusqu'à l'étourdissement les pétales de fleurs qui neigeaient sur sa personne, ainsi que les sifflets graves. Elle flottait ainsi, entre 2 mondes, seul objet de l'adulation de la foule, se sentant infiniment belle et puissante au centre de son cercle magique. Et puis, presque chaque soir, l'un des spectateurs gâchait tout en criant le nom d'Aélénor, ou, pire, son titre ridicule de mère de la Révolution. Alors elle ouvrait les yeux, et tout se remettait à sa juste place. La moitié au moins de l'admiration publique ne lui était pas réellement destinée. Elle n'était qu'un vecteur, une incarnation passagère, tandis que l'autre, qui n'avait pas même daigné venir voir le spectacle, jouissait d'une faveur qui ne faiblissait pas. Aussi, bien que cette pièce lui eût apporté un succès sans précédent, elle comptait avec impatience les jours qui la séparaient de la dernière. La nuit fertile, tout bien considéré, lui portait sur les nerfs.